Chapitre 4. On ne pouvait éviter les oiseaux, même en roulant au ralenti et en slalomant. Sous un ciel bas couleur ciment, la voiture de gendarmerie venait de se garer sur un vaste terrain de terre battue, entre la station d'épuration intercommunale et l'usine de traitement des déchets, visible depuis la route, en contrebas. Des monts bruns, ocre et gris, semblables à d'immenses tétons de sable, faisait barrage aux rangées de pins mêlés aux aulnes arrimées aux rives de l'Arve. En arrière-plan, les nuages dévalaient des sommets, se répandaient entre les parois en épais rubans de limaille. Ça ramenait le ciel à portée de main et écrasait l'espoir d'une belle journée. À Saga, le soleil pouvait disparaître pendant des semaines. Les habitants appelaient cette absence de luminosité prolongée la mort noire. La mort noire minait le moral et augmentait drastiquement le taux de suicide dans la vallée, surtout en automne. Des statistiques officielles en témoignaient. Le capitaine Paul Lacroix sortit de son véhicule, accompagné de Louise, une jeune gendarme d'un quart de siècle sa cadette. Ils scrutèrent les alentours, aperçurent les innombrables cadavres de volatiles.
Les ornithologues, là. Il raconte que la colonie a été effrayée en pleine nuit, expliqua Paul. Si l'on en croit leurs explications, ces oiseaux n'y voient quasiment rien dans le noir. Les centaines de milliers d'individus paniqués auraient décollé de leurs branches et se seraient percutés en plein ciel, et ce sur plusieurs hectares. D'après les différents témoignages, ça s'est passé entre 2h10 et 2h20.
Ils rejoignirent l'adjudant Martini, chef d'équipe en second. Ce dernier les attendait, les bras croisés et tremblotants. De l'eau gouttait du bout de son nez. Le vent et l'humidité de novembre lacéraient les visages, transperçaient les couches de vêtements. Ils se serrèrent la main, et Benjamin Martini, 52 ans, cheveux bouclés en pagaille avec de faux airs de Tom Hanks, montra la végétation.
« C'est par là qu'on a découvert le corps, suivez-moi. »
Il avait la voix blanche, le teint cireux, comme la plupart des habitants de la vallée. Les trois gendarmes contournèrent les monts et s'engagèrent entre les arbres, au rythme lent du capitaine qui boitait méchamment de la jambe droite. Il déplia un mouchoir en papier et le tendit à Louise.
« Chure des tourneaux au coude gauche. »«
C'est pas vrai, saloperie. »
Il la regarda frotter avec dégoût la tache blanche.
« Tu es sûr que ça va aller? Je peux t'épargner la suite, tu sais. »
Louise roula le mouchoir en boule et le glissa au fond de la poche de sa parka.
On va dire qu'après ça, je serai baptisé.
La jeune femme le doubla d'un pas de soldat. Elle voulait marquer sa détermination dans son allure, sa façon de se tenir droite, le menton relevé avec fierté. Paul profita de ce moment en solitaire pour se masser le genou droit, avant de reprendre sa marche. Ses articulations lui faisaient un mal de chien dès que l'air se saturait d'humidité, c'est-à-dire presque tout le temps. Martini leur proposa des paires de gants en latex.
Une kayakiste du nom d'Isabelle Davigny a repéré le corps à 9h50. Elle est d'Albion. Elle descendait l'Arve en prenant des photos des oiseaux morts sur les rives. Quand elle a vu le cadavre, elle a immédiatement contacté la brigade. Brunet, Tardieu et moi, on est arrivés à 10h20 et on t'a appelé dans la foulée.
Paul aperçut le kayak posé plus loin en travers de la berge.
Où est cette Isabelle Davigny?
Elle a commencé à vomir dans l'eau, elle n'était vraiment pas bien. Tardieu l'a emmenée à la brigade.
Après avoir progressé sur le sol tapissé d'épines de pin, ils foulèrent la caillasse mêlée aux galets de la rive gauche de l'Arve. Des étourneaux morts s'éparpillaient ça et là, et Paul eut l'impression d'évoluer dans le décor d'un film post-apocalyptique. Il leva les yeux. À 300 mètres, de terrifiantes figures géométriques envahissaient le ciel, juste sous les nuages. Comme si une bouche invisible soufflait sur de gigantesques poignées de sable noir prises dans un tourbillon. Malgré le massacre nocturne, les étourneaux avaient repris leur incroyable balai. Paul détailla les éléments qui l'environnaient. La rivière était large et fougueuse à cet endroit, d'un bleu de glace. Les rapides attiraient pas mal de kayakistes. À pied, on accédait sans mal à cette rive, ou par l'usine, ou par la route communale qui longeait le torrent sur des kilomètres. Ils s'avancèrent en direction de Brunet. Le gendarme prenait des photos avec son portable et avait veillé à ne pas s'approcher du cadavre. 11h19, le smartphone de Paul sonna. Numéro inconnu. Il coupa vite l'air de « I will survive », malvenu, sans décrocher, et ne laissa qu'un bon pas réglementaire entre la victime et lui. Louise restait à distance. Le capitaine s'accroupit. C'était le genre de journée dont on parlerait longtemps à Saga. Le déluge des tourneaux. Un crime violent abandonnant une victime à moitié dénudée au bord de la rivière. Une sacrée accroche pour le gros Chamarlaine, le journaliste du coin qui ne manquerait pas de débarquer avec son calepin. Les nouvelles allaient vite dans les petites villes. Il examina le cadavre en essayant de garder la tête froide. Avec Martini, il traitait pas mal d'affaires de suicide, de décès un peu obscurs, mais rarement criminels. Il respira calmement, régla son téléphone en mode enregistrement et attaqua les constatations préliminaires. Il recommencerait en présence de leur technicien de scène de crime, mais il jugeait important ce premier contact avec la victime, à chaud. Heure de constatation, 11h22, le 6 novembre 2020. Le corps d'une femme de race blanche, âge indéfinissable, mais je dirais entre 30 et 40 ans, corpulence moyenne, a été découvert par une femme, Isabelle Davigny, d'Albion, alors qu'elle faisait du kayak. Météo humide, il a bruiné dans la matinée. La victime repose en décubitus dorsal sur la rive gauche de l'Arve, dans un axe nord-sud, au niveau de la station d'épuration et des rapides, 2 kilomètres au sud de la ville. Il se pencha davantage vers le corps. Torsion du bras gauche à hauteur de l'épaule formant un angle à plus de 90 degrés par rapport au corps. Un étourneau repose en partie sur sa cuisse droite, avec impact de sang lié à sa chute. Elle est donc probablement morte avant la pluie d'oiseaux de cette nuit. Il se décala d'un pas. Présence légère de sang au doigt de la main gauche au niveau des ongles. Cheveux de couleur blond foncé, long d'une trentaine de centimètres, échymose rendant ses traits méconnaissables. À première vue, l'arcade droite est ouverte, les pommettes possiblement fracturées, occasionnant un renflement. Le nez est renfoncé. Vu les dégâts, la face a peut-être été frappée avec un gros galet ou une pierre, qui sont disponibles en nombre aux alentours. Morceau de tissu noir dans la bouche, utilisé comme bâillon. Apparemment des chaussettes, ce qui semble confirmé par le fait que la victime est pieds nus. Il jeta un coup d'œil vers Louise. Elle lui indiqua d'un clignement de paupières que ça allait. Un carnet en main, elle consignait tout. Il poursuivit. Il n'y a pas de traces de ses chaussures à proximité immédiate du corps. Multiples coupures aux voûtes plantaires et... Son pied droit forme avec la jambe un angle laissant penser qu'elle s'est fracturée la cheville. Son jean et sa culotte sont baissés sous les genoux, échymose sur le haut des cuisses, face interne et... possible saignement vaginaux. Il appuya sur un bouton, marqua une pause. Cette fille avait certainement été violée puis massacrée. Il essaya de faire abstraction de ses pensées noires et reprit après une inspiration. Elle porte encore son anorak, la fermeture est remontée jusqu'au cou. Au moins 2 traces de perforation dans le blouson, au niveau de la poitrine, caractéristique de l'utilisation d'une arme à feu. Attente des techniciens et des pompes funèbres pour déshabillage du corps sur place et constate, avant un départ pour la morgue. Il coupa l'enregistrement et resta un instant immobile face à la pauvre fille. Abandonnée là, au bord de l'eau comme un vulgaire déchet. Quel animal avait pu l'abîmer ainsi, l'assassiner si violemment? Il se redressa avec une grimace, prenant lourdement appui sur ses cuisses. 52 ans et l'impression d'être emmuré dans un corps de vieillard. Il se tourna vers Martini, occupé au téléphone, puis vers Louise. Et si c'était les coups de feu qui avaient dérangé la colonie en pleine nuit? Les tirs affolent les étourneaux, ils décollent des arbres. Ils se percutent, et l'un d'entre eux tombe sur le cadavre frais. Louise ne répondit pas. Ses yeux ronds comme des billes n'arrivaient pas à se détacher de son stylo en mouvement. « J'ai enregistré, » soupira Paul. « Tes notes ne servent à rien. » Elle finit par ranger son matériel dans sa poche et s'intéressa de nouveau au cadavre.
« Oui, c'est fort possible, » répliqua-t-elle. « Et ça nous donnerait l'heure exacte du crime. »
2 heures du matin, à quelques minutes près. On verra ce que dit le légiste, mais ça me paraît une bonne hypothèse.
Sinon, ton avis?
On lui a fourré les chaussettes dans la gorge pour l'empêcher de crier. On l'a sans doute violée, puis tuée ici, sur place.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le pantalon baissé. Et puis c'est un endroit parfait pour ne pas être vu. Bien sûr, il y a la route là-haut, mais dès que le soleil est couché, impossible d'y voir quoi que ce soit. Pas d'éclairage, pas d'habitation aux abords. Le bruit de l'eau couvre les cris étouffés par le bâillon. De toute façon, elle aurait pu hurler tant qu'elle voulait à 2 heures du mat. Il n'y a personne dans cette zone.
Et les pieds nus? Comment t'expliques?
Je n'en sais rien. Vu l'état de ses voûtes plantaires, elle a marché sans chaussures, peut-être même couru. Peut-être qu'on la retenait dans un coffre de voiture ou un camping-car et qu'elle a pu s'échapper. Elle s'est blessée, mais elle a continué à progresser. Est-ce qu'elle voulait se jeter dans l'arbre pour fuir son agresseur? Je ne vois pas tellement où elle aurait pu aller sinon. Elle s'est tordue la cheville et d'après l'angle, ça a été violent. Elle est tombée instantanément, juste là, et la suite s'est passée. Cette bête sauvage s'en est prise à elle.
C'était un scénario plausible. Comment la voiture était-elle arrivée dans les environs? D'où venait-elle? D'un véhicule, comme le suggérait Louise?
Ce qui est bizarre, si on nommait les oiseaux, c'est l'histoire des chaussettes dans la bouche,
ajouta la jeune femme.
Si elle courait pieds nus, ça veut dire que son agresseur avait déjà les chaussettes sur lui.
Ce n'est pas très logique de se balader avec les chaussettes de sa proie. Enfin, il me semble.
La logique, tu sais, en matière criminelle, on voit ça qu'à la télé. Et puis, peut-être fuyait-elle en chaussettes, après tout. Ça ne protège pas des masses. C'est comme ta déduction sur le fait que l'agression sexuelle a eu lieu ici. Peut-être qu'il l'a violée ailleurs. Il est venu déposer le corps à cet endroit et qu'il lui a ensuite baissé le pantalon. Autre possibilité, il l'a violée alors qu'elle était déjà morte.
T'es horrible.
C'est moi qui suis horrible?
Oui.
Faut jamais tirer de conclusions hâtives. C'est la raison pour laquelle j'en suis resté au fait dans mes constats.
Merci pour la leçon, capitaine,
répondit-elle sèchement. Paul fit alors face à son équipe.
Je vais aviser le substitut. Nous allons être saisis. Les heures et les jours à venir risquent d'être chargés. Ça veut dire des dispos les week-ends, des personnes qui se tirent à n'importe quel moment de la journée pour aller chercher ses gosses à l'école. Je veux éviter qu'on prenne encore les gendarmes de Saga pour des branquignoles. Benjamin, tu feras passer le message ?
Il acquiesça en silence. Paul devina une pointe d'excitation dans les yeux de Brunet, celui qui avait pris les photos. Le jeune esquissa même un sourire.
« Tu te dis que ça devrait te changer de l'ordinaire, hein ?»
grogna Paul.
« C'est une jeune femme morte, bordel. Pas une putain de distraction. Rentre-toi ça dans la caboche et arrête de rire !»
Brunet rougit et baissa la tête. Il était l'une des petites mains de la brigade territoriale autonome de Saga, composée de 34 gendarmes, dont 3 techniciens de police scientifique, et couvrant plus de 20 000 hectares répartis sur 8 communes. Elle portait le titre de brigade de montagne, à cause des nombreux sommets de plus de 1800 mètres du secteur. Et elle était habilitée à mener, entre autres, des missions de police judiciaire. Un méticuleux travail d'enquête allait démarrer sous l'autorité de Paul, ce qui était loin de le réjouir.
En attendant les techniciens, on ausculte les environs. J'aimerais bien qu'on découvre les douilles et la pierre qui auraient servi à lui fracasser le visage.
Il passa son coup de fil au procureur, puis écouta le message arrivé quelques minutes plus tôt sur son portable.
Ouais, Paul, c'est moi. Tu ne vas pas me croire. J'ai piqué un somme à l'hôtel de la falaise et il a plu des oiseaux morts dans la nuit. Des centaines d'oiseaux qui tombaient du ciel comme des grêlons. Bref, je devrais arriver à la brigade d'ici une demi-heure. Enfin, si je récupère mes affaires, je t'expliquerai. Tchuss, tchuss.
Paul avait d'abord cru à une erreur, jusqu'à ce qu'il entende les derniers mots. Il réécouta. La voix, l'intonation, le tchuss, tchuss. Une seule personne saluait de cette façon, Gabriel Moscato. Mais c'était plus de 12 ans auparavant. Il raccrocha, blême. Ce coup de fil venait de faire ressurgir en un instant les pires souvenirs de sa vie. Il revint vers le lit de la rivière, de cette démarche qui lui donnait des allures de mutilé de guerre.
« Tu faisais une drôle de tête au téléphone, » constata Louise. « Qu'est-ce qui se passe ?»
Paul scruta désormais d'un autre œil le faciès démoli, la chevelure blonde étalée sur les galets, et ce corps meurtri. Et si ? Était-il possible que ce fût elle ?
Julie Moscato. Il secoua la tête et regarda Louise. Un fantôme. J'ai eu un fantôme au bout du fil.